que ces moyens-là doivent être, permettre la réalisation de choses sur du long terme et en co-construction avec les personnes qui bénéficient des actions.
Merci pour l'atelier numéro 1. Alors l'atelier numéro 2, Manuel.
Donc la question c'était quel avenir pour l'agriculture en Garrigue ? Vaste question qu'il a fallu débattre en 2 heures. Donc les principaux points de chantier d'avenir qui nous semblent importants, c'est tout d'abord faire un véritable état des lieux des productions et des potentiels de la garrigue, sachant qu'il y a des productions directes, des productions associées, et l'idée c'est de mettre en valeur les spécificités et les productions justement assez identitaires de ce territoire des garrigues. Dans un deuxième temps, il faut une réflexion, une planification de développement agricole des garrigues. Cette réflexion et cette planification ne peut se faire que de façon partagée entre consommateurs, entre producteurs et aussi entre collectivités dans ces zones-là. On a vu également qu'il y a un fort besoin d'accompagnement et d'appui pour des démarches collectives. Il y a plein d'initiatives intéressantes sur le territoire des Garrigues, mais elles sont relativement éparpillées. Il faut justement les mettre en lien, mais pour les mettre en lien, il y a un besoin d'accompagnement et d'appui important. Un besoin d'innovation et de recherche-développement. Le potentiel de l'agriculture en garrigue est réel, mais il faut effectivement faire des recherches et innover justement, notamment sur les filières. Valorisation de la qualité et de la diversité des produits. Donc on a beaucoup parlé de l'image de la garrigue. La valorisation des produits se fera par la valorisation d'une image de qualité des produits de garrigue. Le mot garrigue doit évoquer, la notion de garrigue doit évoquer la notion de qualité, la notion de diversité, la notion de paysage. Donc un gros travail à faire autour de cette image et de ces points-là. Voilà, rapidement, les différentes pistes qui ont été évoquées.
Donc vous avez beaucoup insisté sur cette question d'image. Et ça veut dire quoi ? Il y a une réalité de l'agriculture des garrigues qui est méconnue.
Alors, il faut, pour déjà maintenir l'agriculture dans ces zones-là, il y a un besoin. On a vu qu'ici, une des richesses du potentiel de ce territoire des garrigues, c'est aussi sa proximité vis-à-vis des villes. Il y a des consommateurs, il y a des consommateurs qui s'organisent, mais ce besoin d'image, c'est le meilleur moyen, on va dire, pour faire le lien entre producteurs et consommateurs à ce niveau-là. Et c'est aussi, on l'a vu, cette démarche qui est longue, hein, de la valorisation d'une image, c'est ce qui s'est fait dans les Cévennes, par exemple, ou en Camargue, et on voit qu'il y a ce besoin-là qui apparaît au niveau des garrigues.
Développement de l'image qui repose sur une spécificité de l'agriculture de garrigue qui est un atout important.
Effectivement, donc on a beaucoup insisté, donc ça c'est l'importance de l'état des lieux, parce que tout ce qu'on a dit là, effectivement, ça peut se traduire sur d'autres territoires, mais c'est cet état des lieux et des productions et des potentiels qui affichera vraiment les spécificités des produits des garrigues et des potentialités qu'on peut développer à ce niveau-là.
Merci beaucoup. C'était l'atelier numéro 2. L'atelier est maintenant numéro 3, Jean-Paul Salas.
Le titre était un tout petit peu ambigu. On l'avait même dessiné à souhait. C'était générer les nouveaux espaces de loisirs en garrigue. Et très vite, on est passé à l'idée de d'abord les gérer. En gros, pour conclure, que générer et gérer, c'était peut-être des mots synonymes. En l'occurrence, c'est-à-dire que globalement, c'était plutôt le déficit de l'organisation en amont, de l'anticipation de tous ces phénomènes, qui faisait qu'on n'avait plus qu'à les gérer, et souvent dans la difficulté et dans la douleur, et que peut-être si on anticipait davantage, le fait de produire, le fait de proposer, résoudrait un certain nombre de questions liées à la gestion un peu conflictuelle. Les quelques thèmes très, très simple et très synthétisé. Développer les conventions, les chartes avec les usagers organisés, c'est-à-dire notamment les acteurs des sports de pleine nature, et comment on peut faire, et on a eu l'image du syndicat mixte des Gorges du Gardon qui a réussi de belles choses avec les escaladeurs, avec les spéléos et tout ça. Et donc comment généraliser un peu ce type de convention où chacun s'engage de façon contractuelle à un certain nombre de bonnes conduites. L'idée pas tout à fait révolutionnaire et novatrice, mais qui mérite d'être complètement insistée encore, c'est développer des actions d'information et éducation, parce que on dit si on éduque les gens, eh bien ils vont avoir effectivement des comportements plus adéquats avec ce que l'on souhaite collectivement, et notamment sur la pratique que la garrigue n'est pas un espace sans propriétaire, n'est pas un espace sans fragilité, et que donc éduquer les gens, petits ou grands, pourrait faciliter ce genre de résultat. Développer l'offre plurielle de découverte, c'est un mot un peu concentré pour dire que dans les garrigues, il manque d'hébergement, il manque de structure de séjour, il manque des séjours d'écotourisme, il manque des choses qui ont beaucoup de contenu et qui seraient relativement variées, c'est-à-dire qui feraient la part belle aussi à la culture, à la nature, à la pratique sportive, et qu'on constate qu'il y a une sorte de déficit de cette offre-là. L'idée aussi, c'est que les 400 000 hectares des garrigues qui nous intéressent aujourd'hui, mais c'est bien sûr un vaste paysage, et que ces problèmes de conflits d'usage ne sont pas partout. Ce sont même plutôt dans des lieux assez singuliers et spécifiques sur lesquels on suggérerait que ce soit des pôles d'attractivité. L'exemple du pont du Gard, Gorge du Gardon, est un bon exemple en l'occurrence, c'est-à-dire où des moyens en personnel, en signalétique, en proposition, permettraient de mieux cerner les pratiques un peu déviantes. Passer de l'idée que la garrigue est un espace par défaut à un espace de projet, alors on a mis des gros mots, là, identitaire, valorisé, c'est-à-dire faire en sorte que la garrigue soit identifiée en tant que telle, le concept garrigue, la notion de garrigue, en tant que telle dans toutes ces activités-là. Pour le moment, la garrigue, c'est un support de ces activités, mais ce n'est pas la destination de ces activités. Et il nous semble que là, il y a un peu à travailler. Et puis, un vœu pas seulement pieux, mais compliqué, c'est de dire que la garrigue est relativement accessible, elle est aux portes des villes, et qu'on pourrait aussi imaginer que l'accès à un certain nombre de ces sites de pratiques d'usage de loisirs en garrigue puisse être réfléchi selon des modes doux. C'est bien sûr un chantier compliqué, mais tant qu'on en était à faire des choses généreuses, on ne s'est pas gêné.
Vous avez bien fait. Je vais d'ailleurs vous poser une question, savoir si vous avez abordé une autre question qui est une question sous-jacente et fréquente en termes d'usage des loisirs. C'est ce mode de rapport à la nature qui est un mode de consommation, un mode nouveau que certains appellent d'ailleurs la culture décathlon. Hein, on va acheter et puis on pratique tout seul sans encadrement. Je crois que ce mot a été prononcé dans votre atelier. Comment vous l'avez abordé et comment vous envisagez la possibilité de mieux gérer ces pratiques-là qui ne sont pas des pratiques fédérées?
Oui, ça c'est un peu la quadrature. C'est vrai qu'on a beaucoup prononcé le mot parce qu'on constate deux choses. D'une part que les garrigues sont aux portes des villes, que ces villes vont augmenter, qu'il n'y a aucune chance pour que la fréquentation des garrigues ne diminue dans l'avenir, et diminue avec des gens qui ne sont pas forcément originaires d'ici, qui ont une image de la garrigue qui n'est pas forcément la réalité, et donc que ces pratiques un peu de consommation de la nature, pour des raisons qui ne sont pas la découverte même de la nature, mais qui sont plein d'autres raisons personnelles et contradictoires dans le cœur et dans la tête des gens, bien sûr, cette consommation nous gêne. Mais effectivement, ce n'est qu'en développant des formes pas forcément gigantesques, c'est une espèce de prêche dans le désert, comme aurait dit Saint Paul, mais c'est-à-dire qu'on aille absolument partout raconter toujours un peu les mêmes choses à proximité des gens, de manière à ce que les gens qui vont être de plus en plus nombreux dans les garrigues sachent qu'ils découvrent pas seulement un espace de récréation où tout est permis, mais un espace qui a ses codes, qui a ses règles, qui a ses fragilités et qui a surtout ses valeurs, et que c'est ces valeurs-là qu'on vient découvrir a priori.
Merci Jean-Paul Salas. Atelier numéro 4.
Oui.
Allez-y. Alors, le numéro 4, c'était sur le patrimoine bâti et les pierres sèches.
Oui. C'est ici. Voilà. Donc, patrimoine bâti et pierres sèches, enjeux et menaces. Donc, on a beaucoup parlé du patrimoine bâti en pierres sèches, en particulier, évoqué un peu moins, mais sans l'éluder malgré tout, le patrimoine bâti avec de type médiéval, etc. Mais on n'est pas rentré dans une typologie et la plupart des participants à l'atelier étaient avec des actions beaucoup autour de la pierre sèche. On est parti de pas mal d'expériences locales pour aboutir à ces quelques propositions ou points forts. Tout d'abord le fait de sensibiliser au patrimoine et de former à ces techniques. C'est-à-dire une sensibilisation qui ne reste pas dans les intentions, mais qui forme aux techniques pour favoriser sa réappropriation par les habitants, soit habitants de nouvelles générations qui n'ont pas été en contact direct avec le patrimoine rural, soit des nouveaux arrivants dans la région qui, s'ils sont formés, seront mieux à même d'en assurer la sauvegarde. L'idée de réaliser un inventaire, et non pas un inventaire du patrimoine, il y en a et ça serait à poursuivre, mais un inventaire des acteurs associatifs, collectivités, institutions, etc., des acteurs et des ressources, afin de pouvoir mutualiser et rendre les projets plus efficaces, mutualiser les expériences, les savoir-faire, pour une synergie sur le territoire. On s'est aperçu qu'il pouvait y avoir des besoins de méthodologie en termes d'inventaire, des besoins de partage de savoir-faire en termes de restauration, en termes de prise en compte du patrimoine bâti dans les plans locaux d'urbanisme, etc. Et donc la nécessité que les acteurs, les projets et les expériences puissent être référencés pour servir à tous. Autre point fort, le fait de promouvoir, d'argumenter un lien entre patrimoine bâti, économie et social. Et donc là, bien évidemment, les liens forts avec le tourisme, alors tourisme au sens strict ou tourisme de proximité, avec l'agriculture, le pastoralisme, avec des filières professionnelles, comme la filière professionnelle bâtie pierre sèche, qui est en train d'obtenir aujourd'hui une reconnaissance professionnelle réelle, et également insertion sur les aspects sociaux, etc. Et c'est un peu un prolongement, le fait de faire valoir les bénéfices du patrimoine pour le territoire. Le patrimoine, c'est un élément structurant et identitaire par sa part historique, certes, mais ça n'est pas que ça. C'est aussi un certain nombre de services écosystémiques. On a cité notamment la part des murets et terrasses dans les rôles anti-érosion, etc. C'est, et ça rejoint le point précédent, une possible relance d'activité à différents niveaux pour le territoire des Garrigues.
À vous entendre, on a l'impression que le mot fort, au fond, la nécessité d'agir le plus, c'est en termes de mutualisation, c'est-à-dire que l'action se fait plus, selon vous, aujourd'hui, lieu par lieu, commune par commune. Il n'y a pas suffisamment d'échanges en matière de patrimoine bâti et de pierres sèches.
Alors, c'est quelque chose qui est ressorti assez fortement en début d'atelier, avec effectivement des problèmes locaux auxquels sont confrontés bon nombre d'associations et le besoin de pouvoir mutualiser, se fédérer éventuellement. Et on a également vu émerger des expériences, notamment au niveau du pays usage Pont du Gard,
pays costière garrigue, pardon, des expériences d'institut du patrimoine, des choses comme ça, dont on se dit qu'elles pourraient être élargies à plus d'acteurs et à un territoire plus large, plus vaste.
Merci. Le dernier atelier sur la périurbanisation en garrigue.
Donc on a réfléchi, on a toutes les solutions. Donc ce qu'on a bien vu, et notamment par le témoignage du grand témoin, c'est qu'on avait des diversités de situations entre des villes qui sont adossées aux métropoles ou des villes qui sont à 30 km, 40 km au nord. On a des diversités évidemment évidentes qui font qu'il va falloir à chaque coup réfléchir, et donc quand on regarde la ligne du bas, soit des projets de périurbanisation, soit définir des projets de néo-ruralité. Et donc ce qu'on voit bien, c'est qu'on a à réinventer ou à structurer de nouvelles solutions. Pour cela, ce qu'on voit bien, c'est qu'il faut continuer à se poser deux, trois questions fondamentales. Et donc, c'est même pas une idée de moi pour ceux qui me connaissent. Donc, continuer à animer des débats philosophiques sur le terrain, parce qu'on voit bien que l'urbanisation n'est qu'une déclinaison de quelques choix relativement fondamentaux de quel rapport entre les êtres humains on souhaite, donc quelle humanité. Est-ce qu'on veut mettre les riches dans des jolies masses de garrigues et les pauvres dans... Voilà, etc. Donc à un moment, il y a des questions fondamentales à partager sur quelle humanité on veut. Et ça, ce débat-là, il faut qu'il puisse se continuer, se délayer. Derrière les autre question fondamentale, quel rapport homme-nature? Et donc, est-ce qu'on veut mettre l'homme d'un côté et la nature de l'autre, ou au contraire, est-ce qu'on veut entrelacer tout ça et comment? Donc ça, c'est vraiment une vraie question ouverte, mais qui doit continuer à être posée, à être animée. Et ensuite, quelle garrigue? On voit bien qu'il n'y a pas une garrigue, mais il y a des garrigues. On a bien vu que c'était un milieu qui était dynamique. Et donc, le fait de savoir quel type de garrigue on veut, une fois qu'on aura fait ces choix, alors qu'ils sont peut-être globaux, mais peut-être un peu locaux, ça nous permettra de voir... quelle solution en termes d'urbanisation on va pouvoir mettre en place par rapport à ça. Pour ça, ce qu'on voyait, c'est que bien souvent, les acteurs du territoire, et on a beaucoup parlé des jeux d'acteurs, avaient des idées, mais bon, des fois, le fait d'alimenter des élus, d'alimenter des bureaux d'études, d'alimenter des associatifs avec de nouvelles idées, ça pouvait être plutôt pas mal. Et donc l'idée, c'est de faire une boîte à idées, je me répète, et donc dans cette boîte à idées, de pouvoir rapidement voir ce qu'on fera des espaces notamment délaissés. On va arracher, il est possible, de la vigne dans ces territoires. Si on n'a pas de solution, la nature a horreur du vide, la solution facile, ça va être de dire, bon, allez, dans les endroits qui ne brûlent pas et qui ne s'inondent pas, on pourrait bâtir. Donc rapidement avoir des idées de nouvelles affectations de ces territoires. Avoir échangé entre élus un peu éveillés, ça existe, d'échanger des idées de projets de village, parce qu'on voit qu'il y a des élus qui ont vraiment réfléchi de manière systémique, effectivement, de nouvelles formes d'organisation des territoires. Et là, ce qu'on pourrait très bien imaginer, c'est qu'entre eux puissent s'échanger ces idées, et visiblement ça se fait un petit peu, mais on pourrait aller un petit peu plus loin. Il y a aussi l'idée d'échanger des success stories. C'est quelqu'un qui disait que bien souvent, on n'arrête pas de lister ce qui dysfonctionne. Et c'est sympa de lister ce qui dysfonctionne, mais c'est très anxiogène. Et donc, au bout d'un moment, on a envie de se mettre dans son pavillon avec un peu de garrigue et puis d'arrêter de causer avec les autres êtres humains. Et donc, l'idée d'échanger entre de choses qui fonctionnent. Et donc là, dans les choses qui fonctionnent, on parlait et c'est la ligne en dessous, de lister de nouvelles formes d'urbanisation, donc soit en projet, soit réel. Et ça peut être des gens qui réfléchissent à de nouveaux villages en garrigue, donc des villages ex nihilo, des gens qui réfléchissent sur des masses, des gens qui réfléchissent sur reconvoquer l'idée du masse à la lumière du 21e siècle. Il y a des gens qui disent, tiens, on pourrait imaginer des urbanisations résidentielles de manière un petit peu différente. Mais de la même manière, tout ça, on a intérêt d'en avoir des petites bases de données, des petites banques d'idées qui pourraient nous alimenter. Autre élément, c'est-à-dire, derrière tout ça, et on a parlé un petit peu des jeux d'acteurs, on voit bien qu'un des enjeux, ça va être de faire tout ça ensemble. Donc il y a le troisième point, c'est explorer de nouvelles méthodologies, de nouveaux modes d'agir, un des premiers points, c'était vraiment le fait de dire que tout est lié. Et arriver à analyser et à gérer des projets de manière systémique, ben, on n'est pas très très fort pour ça. Et donc là, il y a à retravailler, à vulgariser des approches systémiques des territoires. L'autre point, c'est de dire que ben, tout ça, derrière tous ces éléments, on a envie de le faire ensemble, et donc que les acteurs d'un territoire puissent dialoguer ensemble, co-construire, co-bâtir. Et là, pareil, en termes de méthodologie, on a besoin d'idées, donc explorer des méthodologies spécifiques pour sur le comment travailler ensemble. Et ce qu'on voit, c'est que par exemple, d'un bout du territoire des Garrigues, ben, là, se réunir autour d'une table, c'est facile, mais travailler à distance, c'est un peu compliqué. Travailler à beaucoup, c'est un peu compliqué. Donc là, c'est vraiment des choses à explorer. Et enfin, il y a vraiment l'idée d'agir sur des acteurs clés. Et là, il faut les former, les éduquer, les sensibiliser, les outiller. On a listé donc des élus, on a listé des associatifs, des bureaux d'études, des acteurs économiques, et leur dire que bien souvent, il y a un certain nombre de lois qui existent, qui sont totalement méconnues, qui sont sous-utilisées. Et ce qu'on voit, c'est qu'autant il est facile d'éduquer et de sensibiliser des élus déjà convaincus ou des associatifs déjà convaincus, il y a un gros travail à faire pour aller prêcher ou sensibiliser, éduquer des personnes qui, quand on parle de nouvelles formes d'urbanisation, de néo-ruralité, ont plutôt tendance à fuir ces concepts-là. Donc là, il y a vraiment des stratégies éducatives à mettre en œuvre auprès de ces acteurs. Voilà. On a dit plein d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Hein. Ça, c'était extraordinaire.
Vous avez en particulier parlé d'approche systémique des territoires. J'imagine que pour arriver à cette notion, vous avez abordé beaucoup de choses. Est-ce que vous avez abordé en particulier la question de la mobilité, puisque un des problèmes qui est posé à l'urbanisation périurbaine, en particulier, c'est cette question-là de la mobilité.
Alors, c'est effectivement revenu à plusieurs reprises. Ce qu'on a vu, c'est qu'actuellement, il y a cette espèce de grand projet de conurbation 7 à l'Est, et donc qui s'oriente autour d'axes de circulation, et dire à un moment, ben, on pourrait très bien imaginer, alors, soit densifier les constructions autour de ces grands axes, mais c'est dire après, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de nouveaux axes, alors un peu doux, un peu alternatifs, dans les territoires un peu plus... parce que pour l'instant, pour aller du nord des Garrigues, bien souvent, il faut venir dans les métropoles, circuler un peu et remonter. Et donc, d'avoir des systèmes qui permettraient de circuler d'est en ouest dans nos Garrigues, dans nos territoires des Garrigues, mais d'une manière un peu plus... sans faire d'autoroute, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.